Bonsoir à tous. Nous avons une joie toute particulière à vous accueillir ce soir au Centre Sèvres. C'est en effet la première fois depuis bien longtemps que la faculté de philosophie peut organiser une soirée de rencontres et de discussions sans écran et sans masque. Nous remercions chacun d'être présent pour fêter, autour d'Henri Lot et de Spinoza, ce retour à la vie habituelle. Nous remercions aussi tout particulièrement les trois intervenants de ce soir, Pierre-François Moreau, Michel Fédoux et Henri Lot. Pierre-François Moreau enseigne la philosophie à l'École normale supérieure de Lyon. Il est à bien des titres un maître. Dans ses domaines de recherche, bien sûr, le principal étant l'œuvre de Spinoza et le spinozisme, mais également auprès de ses nombreux étudiants et auprès du public auquel il contribue à faire connaître l'œuvre du philosophe néerlandais. Ces publications, trop nombreuses pour être toutes citées ici, sont majeures pour l'histoire de la philosophie et de la pensée politique. Pierre-François Moreau dirige actuellement la nouvelle édition des œuvres complètes de Spinoza aux Presses universitaires de France, dont le volume le plus récemment paru est l'Éthique. Il en assure la présentation et la traduction, en tenant compte notamment d'un manuscrit retrouvé en 2010 dans les archives du Vatican. Cette édition est un événement. Le traité théologico-politique, paru en 2012 au PUF, a été également traduit par Pierre-François Moreau en collaboration avec Jacqueline Lagré, qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir. Michel Fédoux enseigne la patristique et la théologie dogmatique ici au Centre Sèvres. Il est responsable du département d'études patristiques avec notre collègue Isabelle Bauchet, ici présente également. Son œuvre théologique est considérable. Elle rend compte à la fois de sa connaissance intime des pères de l'Église, parmi lesquels Origène tient une place de choix, et de son intérêt pour les religions et les cultures dans leur diversité. En témoigne son livre « La littérature grecque d'Homère à Platon » paru en 2019, qui se lit aussi bien qu'un excellent roman. Je vous le conseille. Michel Fédoux est également l'auteur d'un ouvrage paru en 2014, « Les théologiens jésuites, un courant uniforme ?» Il a donc fréquenté des œuvres et des chemins voisins de ceux qu'Henri Lot emprunte dans le livre dont nous parlons ce soir. Henri, c'est donc votre tour d'être présenté. Vous enseignez la philosophie au Centre Sèvres et dirigez le cycle de doctorat en philosophie. Vos cours portent sur vos domaines de recherche, la pensée de Spinoza et la philosophie du XVIIe siècle, l'affirmation de Dieu et les rapports entre la mystique et la philosophie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui rendent compte autant de votre spinozisme que de votre intérêt pour la spiritualité et la mystique. Votre premier livre, paru en 1993 chez Vrin, « Imagination et religion chez Spinoza, la potentia dans l'histoire », est le fruit de votre travail de thèse dirigé par Alexandre Matron. Il porte sur les voies ouvertes par Spinoza pour penser une religion libérée et une foi joyeuse, notamment par la lecture critique des Écritures. Du côté de la spiritualité, vous avez entre autres titres, je ne saurais tous les citer, édité « Les questions sur l'amour de Dieu » du mystique Jean-Joseph Surin en 2008 et vous avez écrit « Pour une existence spirituelle » en 2017. Il est temps de présenter l'individu le plus éminent de cette soirée, votre livre, Spinoza et le christianisme, dont le titre semble unir les deux voies de votre recherche intellectuelle. Vous y affrontez la question d'une manière toute nouvelle. Non seulement vous nous présentez dans un premier temps ce que Spinoza dit de la religion et du christianisme, mais dans un deuxième chapitre, vous interrogez au sujet du philosophe les théologiens chrétiens du XXe siècle à aujourd'hui. Que pensaient-ils de Spinoza? Qu'ont-ils écrit au sujet de son œuvre? Le connaissent-ils vraiment? L'avaient-ils seulement lu? Si bien que votre ouvrage pourrait s'intituler, si n'était que son chapitre 2, Spinoza et les théologiens. Il n'y avait rien d'évident à se lancer dans l'aventure, vous le rappelez dès l'introduction, en citant ce que Henri de Lubac écrit à Yves de Montcheuil en 1925. Travaillez beaucoup Spinoza, c'est le plus important de tous, lui et Kant, mais lui d'abord, je me persuade de plus en plus que ce sont les deux hommes à connaître. Je dis « lui » d'abord, parce que je crois qu'en fait son influence fut beaucoup plus étendue et profonde en même temps que plus néfaste. C'est le grand homme et le principal fondateur, qu'on le sache ou non, de la pensée moderne et de la libre pensée. Ce ne sont pas de vagues déistes ni des polissons comme furent beaucoup de gens du XVIIIe siècle, ni de pâles scientistes qui auraient suffi à déchristianiser la pensée. Spinoza est le grand coupable. Cette lettre, malgré les apparences, représente un progrès. Elle recommande de s'intéresser à l'ennemi et de reconnaître sa valeur, ce dont bien des théologiens chrétiens ne prirent jamais la peine, comme vous le soulignez, avant d'entamer ce parcours à travers les œuvres de Karl Barth, Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac, Karl Rahner, Paul Tillich pour le XXe siècle, Wolfhard Pannenberg, Eberhard Jungel, Jürgen Moltmann, Joseph Moin pour une période plus récente. Vous concluez cette traversée par un développement consacré au philosophe Stanislas Breton, membre de la Congrégation de la Passion, en prolongeant l'examen d'un rapport établi antérieurement par Jacqueline Lagré entre le philosophe du XXe siècle et Spinoza. De ce voyage érudit à travers les œuvres, il ressort plusieurs usages de Spinoza par les théologiens. D'une part, un usage que vous qualifiez d'illustratif, polémique ou seulement neutre, lorsque Spinoza incarne un modèle intellectuel, une certaine posture philosophique, celle de l'athée ou du panthéiste. D'autre part, un usage dialogal, chez Paul Tillich, chez Joseph Moin surtout, pour lequel Spinoza est un interlocuteur à part entière sur la question de la lecture des Écritures, de l'interprétation du personnage de Jésus, le rapport des religions et de l'État, la fonction de l'autorité. Quant à Stanislas Breton, vous concluez ainsi « En confiant le discours au souffle, il signait une autre et belle manière de se rapporter à Spinoza, celle qui ne cherche pas un outillage conceptuel, des approbations, encore moins un adversaire, mais une force de vie. » Le troisième chapitre de votre livre démontre en quoi le spinozisme peut constituer pour la pensée chrétienne une possible force de vie. C'est ce chapitre qui justifie pleinement le titre de votre ouvrage. Votre position est entière et engagée. Tout intéresse ou peut rencontrer le christianisme chez Spinoza. Votre démonstration emporte l'adhésion. Elle est aussi un appel à un dialogue entre la théologie et la philosophie, pour qu'entre elles, il ne soit pas question de frontières mais de rencontres, chacune étant ancrée dans son propre discours. Avec ce livre important, vous ouvrez une voie aux spinozistes comme aux théologiens. Je me permets une question, bien que ce ne soit pas mon rôle ce soir de poser des questions. Mais vous m'y avez autorisé il y a quelques jours, du moins c'est ce que j'ai compris et j'en profite. Vous portez depuis toujours la question de la force de vie propre au spinozisme, notamment pour le christianisme. Votre thèse en témoigne, mais également vos ouvrages, de manière plus ou moins appuyée. Déjà dans Le Dieu excentré, paru chez Beauchesne en 2005, vous évoquez le Dieu de Spinoza comme figure de ce Dieu excentré dont vous proposez le concept, en rappelant que toute critique de Dieu est aussi une expérience de Dieu. Au sujet de la proposition 24 d'éthique 5, « Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu », vous écrivez « Formule éclatante par son évidence et que ne désavouerait pas telle tradition spirituelle bien établie. » Peut-on rêver d'une suite à Spinoza et le christianisme, un tome 2, celui sur la tradition mystique chrétienne du Dieu impersonnel, dont vous êtes un si fin connaisseur, de la mystique sans mystère, pour reprendre l'expression de Jacqueline Lagré. Cela demanderait cette fois de remonter le temps à partir de Spinoza, sans changer toutefois de lieu, peut-être vers cette source flamande et rhénane de la mystique spéculative, la Wesen mystique, qui n'est peut-être pas sans lien avec la connaissance du troisième genre. Il est grand temps que je passe la parole. Nous écouterons d'abord Pierre-François Moreau et Michel Fédoux, puis Henri réagira ou répondra. La parole sera ensuite au public pour des questions éventuelles. Merci beaucoup.
Oui. Je vais vous proposer un exercice. Imaginons un lecteur cultivé, intelligent, intéressé par la philosophie, sans être forcément un philosophe professionnel, et qui n'a jamais lu Spinoza. Ça existe, il y en a. Il y en a encore. Pas pour longtemps, j'espère, mais ça existe. Imaginons que ce lecteur, ou cette lectrice, s'intéresse au spinozisme et donc apprenne ce que c'est que le spinozisme par, comme font beaucoup de gens, hein, comme nous faisons tous pour les philosophes dont nous ne sommes pas spécialistes, l'apprenne par les manuels. Nous regardons des manuels d'histoire de la philosophie ou même qu'il aille jusqu'à faire un effort pour lire, par exemple, les auteurs du 7e siècle qui se sont attaqués à Spinoza, qui ont critiqué, Bell, Malebranche, quelques autres. Il pourrait à partir de ça avoir une certaine vision du système. Spinoza, le déterministe, Spinoza pour qui Dieu c'est la nature, Spinoza pour qui il n'y a qu'une seule substance, etc., etc. Bon, Spinoza pour qui le bien et le mal sont seulement relatifs et pas absolus. Spinoza qui a critiqué la conception habituelle de la Bible et qui a montrer que le Pentateuque n'avait pas été écrit par Moïse, ni le livre Josué par Josué, etc. Bon. Tout ça, on peut le trouver dans la littérature secondaire, aussi bien celle des manuels que celle des adversaires, voire celle des partisans. Voilà quelqu'un qui serait parfaitement au courant, pourrait-on penser, du spinozisme. J'ai déjà parlé trop longtemps. Imaginons que ce lecteur maintenant ouvre le traité théologico-politique, ou peut-être une lettre, ou un scoli de Éthique 4, et qu'il voit ce que Spinoza dit du Christ. Eh bien, on peut dire qu'il sera extrêmement surpris, parce que à partir de l'image qu'on peut se faire du spinozisme dans ce qu'on en trouve dans les manuels, ou dans ce qu'on trouve dans les littératures secondaires, on ne s'attend pas à ce que Spinoza parle du Christ, et surtout pour en dire ça, ce qu'il en dit. Alors effectivement, ce message du Christ, cette personne du Christ, telle que Spinoza en parle, c'est quelque chose qui n'a pas du tout secoué les commentateurs, ou les exégètes, ou les critiques pendant des siècles. On a beaucoup discuté sur ce que Spinoza pouvait dire du christianisme, mais il y a là autour du Christ quelque chose de tout à fait particulier dont on a l'impression en lisant la littérature secondaire que les gens considèrent que ça n'a pas l'air de faire partie de la philosophie de Spinoza. Que c'est quelque chose qu'il aurait dit, je sais pas, peut-être pour faire plaisir à ses amis chrétiens, mais ça n'a pas vraiment réussi, parce que quand on voit ce que lui dit Oldenburg, par exemple, dans leur correspondance vraiment privée, Oldenburg il dit « mais je ne peux pas accepter ça ». Donc. Non, c'est vraiment ce que pensait Spinoza sur le Christ, et on a là quelque chose qui, étonnamment, n'a pas vraiment marqué l'histoire de la philosophie, qui est que, je dirais, pratiquement jusqu'au livre d'Alexandre Matteron, qui doit paraître en 1971, Le Christ et le salut des ignorants chez Spinoza, voilà, j'ose pas dire un thème, mais un symbole ou une présence de la philosophie de Spinoza qui est absente de la lecture des spinozistes ou des anti-spinozistes. Alors, ça vaut le coup de s'y attarder un peu parce que ça peut changer quelque chose dans le regard, par exemple, que les chrétiens portent sur Spinoza, et aussi dans les questions que les spinozistes peuvent se poser sur Spinoza et la religion, ou Spinoza et le christianisme. Il faut dire que quand on dit, alors non plus Spinoza et le Christ, mais un thème beaucoup plus connu et répandu, Spinoza et le christianisme, titre du livre, c'était plutôt mal parti au départ. C'était même très mal parti. Les premières réactions des chrétiens qui lisent Spinoza, c'est l'indignation, la délation, la révolte contre ce qui leur paraît à la fois absurde, impie. Et le premier mérite du livre de Henri Lowe, c'est dans sa première partie de faire d'abord le bilan de ces réactions immédiates, du vision même de Spinoza, comment des gens qui sont en relation avec lui, qui sont parfois des amis. C'est le cas de Lambert Veldhuizen, qui était assez proche de lui pour le faire inviter au camp de Condé pendant l'invasion française. C'est le cas d'Oldenbourg, dont je parlais tout à l'heure, avec qui il discute. C'est le cas de quelqu'un qui a été proche de lui avant de se convertir au catholicisme et qui est le grand savant minéralogiste et on dirait maintenant biologiste, enfin médecin Stenson. Ce sont des gens qui sont tous heurtés d'une façon ou d'une autre et parfois violemment par ce que Spinoza peut dire de la religion, du Christ, du christianisme, etc., etc. Mais justement, il ne s'attarde pas à la question du Christ lui-même. C'est ça qui m'intéresse. Il s'attarde à la question du christianisme ou de la contradiction entre la pensée de Spinoza. Et à côté de ça, il y en a d'autres qui sont proches également. Par exemple, son ami Hierarchieles, qui écrit une confession de la foi chrétienne. Donc lui, il se revendique comme chrétien. Il la fait lire par Spinoza, et Spinoza prend la peine de lui dire qu'il est d'accord avec l'essentiel de ce qu'il y a dedans. Et après la mort de Spinoza, après la mort de Hierarchieles de Spinoza, on imprime cette confession, et ça vaut le coup de regarder ce qu'il y a de chrétien et de spinoziste dans ce texte. Donc voilà, je dirais le premier mérite de ce livre d'Henri Lo, c'est de montrer comment ça commence. Comment, dans ce que dit Spinoza et dans ce que les chrétiens retiennent de ce qu'il dit, au départ, il y a parfois des proximités, plus souvent des rapports de contradiction, voire d'agression. Et il rappelle cette formule bien connue que dans les universités allemandes du 18e siècle, un bon moyen de commencer de sa carrière, c'était de publier une réfutation du spinozisme. Je dirais que ça a continué jusque vers 1750, jusqu'à ce que Edelman publie son livre sur Moïse. À ce moment-là, la mode a changé, il fallait commencer sa carrière par une réfutation d'Edelman. Les ennemis apprenaient à les reconnaître, comme on disait autrefois dans les affiches d'armée française avec les photos des chars russes, ça reviendra peut-être. Voilà, portrait Spinoza, portrait d'Edelman, portrait de Hobbes ou de Charbery. Donc voilà, la première rencontre de Spinoza et le christianisme, ça se passe mal. Ça se passe mal, alors que quand on regarde ce que dit Spinoza dans le texte, finalement, il n'en dit pas beaucoup de mal du christianisme. Il dit au contraire, plutôt du bien. Il dit beaucoup de mal de l'Église. Il dit beaucoup de mal des prêtres. Il dit beaucoup de mal de ceux qui manipulent les superstitions. Mais le christianisme en tant que tel, il en dit plutôt du bien. Il y voit l'exigence de justice et de charité qui était déjà portée par la foi d'Israël, mais cette fois universalisée. La reconnaissance de ceci chez Spinoza, ça a mis beaucoup de temps chez les théologiens chrétiens, et c'est la deuxième partie du livre d'Henri Lo. Chez les théologiens du 19e et du 20e siècle, on voit peu à peu se faire l'idée, alors bon, à mon avis, ça vient du conflit de panthéisme qui a lieu en Allemagne à la fin du 18e siècle, qui fait transformer l'image de Spinoza où d'un athée, il devient un mystique ivre de Dieu. Le même personnage, tout d'un coup, part de l'enfer pour se retrouver dans un paradis parfois un peu douteux, mais paradis mystique. Celui dont discutent Jacobi, Mendelssohn, Goethe, etc., etc. Donc c'est une répercussion chez les théologiens eux-mêmes. Henri a suivi cette évolution. La citation qu'on a rappelée tout à l'heure de Delubac était très claire. On ne le considère plus comme n'importe quel athée, on le considère comme le principal. Alors il y a évidemment des variantes. Henri Lo dit qu'il ne cherche pas à décrire tout le monde, mais simplement à montrer quelques attitudes typiques. Alors, je dirais des attitudes typiques, il y en a trois, dont une qu'il ne cite pas, c'est celle du Persivec, qui écrivait dans les années 50. Lui, on a l'impression qu'il vit encore au XVIIe siècle. Le Persivec, il dénonce Spinoza comme athée, panthéiste, impie, méchant, tout ça. Bon. C'est vraiment ce qu'on peut faire de pire comme absence de lecture. Il y en a une deuxième que tu mentionnes sans brièvement à propos aussi de Lubach. C'est, je dirais, c'est pas un vice théologique, c'est le vice des érudits, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils le soient pas. C'est Dounin Borkowski, qui est un immense savant. Mais le problème de Dounin Borkowski, c'est que sa science l'étouffe, si j'ose dire. Dounin Borkowski publie un volume entier sur Spinoza en 1856, l'année où il était exclu de la synagogue. Et Dounin Borkowski entreprend le répertoriage de tous les ouvrages qui sont parus à Amsterdam en 1856. Ce qui méthodologiquement est effarant. Parce que ça veut dire ou bien que Spinoza est censé avoir lu tous ses ouvrages, c'est impossible, ou bien qu'il aurait pu les lire, c'est vrai, mais ça n'a aucun intérêt, ou bien, ce qui est plus subtil, et c'est une question qu'on pourrait poser à beaucoup d'autres que Dounin Borkowski, hein, en dehors des exégètes chrétiens, on pourrait la poser à Wolfson, on pourrait la poser à Popkin quand il parle de scepticisme, on pourrait la poser à un certain nombre d'érudits justement qui sont étouffés sous les livres. Ou bien, je dirais la troisième voie, si c'est pas ce que Spinoza a lu, ce que Spinoza aurait pu lire ou dû lire, c'est essayons de construire l'ère du temps, hein, l'atmosphère intellectuelle dans laquelle Spinoza s'est développé. Mais en fait, c'est une bonne question en elle-même, mais que l'érudition ne peut pas résoudre parce que l'érudition entreprend de façon additive ce qui devrait être analytique. Et ce que Dounin Borkowski, en fait, ne fait pas. Je prends un exemple. Pour expliquer ce que peut être la physique de Spinoza, c'est dans un autre volume, d'ailleurs, qu'il fait ça, dans le septième La Spinoza organisé par Gebhardt, il prend, comme on n'a pas de traité de physique de Spinoza, il prend des traités de physique de Van Veldhuizen, qui était un ami et un adversaire Spinoza. Il dit, voilà ce que Van Veldhuizen disait sur la physique. Donc, on peut penser que Spinoza, la physique absente de Spinoza, elle est là. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que Spinoza a connu quelqu'un qui a écrit ça que lui-même pensait la même chose. Donc voilà, il y a, je dirais, le vice de la haine théologique, le père Sivek, le vice de l'érudition, Dounin Borkowski, et puis il y a une troisième attitude possible qui est l'attitude de la prise au sérieux de Spinoza. Alors la prise au sérieux, c'est la prise au sérieux avec quand même une distance de Lubach, que tu cites au début, mais aussi la prise au sérieux qui va plus loin, qui essaye de comprendre ce que il y a de profond chez Spinoza et ce que un théologien chrétien peut aller chercher chez lui, quitte à savoir à quel moment il va prendre sa distance, un peu plus loin qu'au début. Et c'est là que se trouvent les très beaux chapitres de ce livre sur Tillich, sur Joseph Moins et sur le père Breton. Alors, je ne parlerai pas des trois, je m'arrêterai un instant sur Tillich parce que ce qu'on découvre dans le chapitre que tu as rédigé sur Tillich, c'est qu'à la différence de tous les autres, et même à la différence de beaucoup d'exégètes non chrétiens, il a découvert, miracle si j'ose dire, que Spinoza a écrit autre chose que les livres 1 et 2 de l'éthique. Et très souvent, quand on lit des commentaires du spinozisme, on a l'impression que Spinoza, c'est l'auteur de Métaphysique et une théorie de la connaissance, et que ça s'arrête là. Alors, bien entendu, les polémiques chrétiennes contre Spinoza, c'est évidemment sur la question de Dieu, donc sur le livre 1, sur la question du rapport de la moyenne du corps, sur le livre 2. Mais, alors, Tillich le fait aussi, hein, il discute sur ce qu'est le Dieu de Spinoza, sur le rapport entre Dieu de Spinoza et le Dieu chrétien, et il se demande, par exemple, si la critique que Spinoza effectue de l'anthropomorphisme, elle peut pas être utile à un théologien chrétien pour débarrasser le christianisme d'un certain niveau anthropomorphique afin d'élaborer une conception plus raffinée de la divinité. Mais surtout, enfin moi ce qui m'a frappé, c'est que Tillich va plus loin. Tillich, quand même, ce théologien qui est en même temps un militant anti-nazi, qui a défendu des juifs attaqués par le nazisme en 33, qui a dû prendre le chemin de l'exil à cause de cela, écrit un livre sur le courage politique, et plus, parce que derrière le courage politique, pour lui, il y a une ontologie du courage. Et pour élaborer cette ontologie du courage, il va la chercher dans la troisième partie de l'éthique. C'est-à-dire qu'il fait ce que les interprètes chrétiens de Spinoza et les autres n'ont pas fait, il va au-delà des deux premières parties de l'éthique, et il prend au sérieux la théorie de la force d'âme, la théorie de la fortitudo, qui est quelque chose qui, en général, n'a pas beaucoup frappé les interprètes. Après tout, quand on regarde le grand livre de Guéroux, tome 1, Dieu, tome 2, l'âme, et puis on arrête là. Et Guéroux lui-même laissait entendre que, bon, il ferait bien un tome 3 pour l'ensemble du reste, parce que c'était secondaire. Bon. Et justement, Tillich, peut-être est-ce indissociable de son itinéraire personnel, de son expérience politique proprement dite, mais quand il s'interroge sur cette question du courage, qui encore une fois pour lui n'est pas simplement une question éthique, mais qui se fonde sur une ontologie de l'action humaine, il va la chercher chez Spinoza. Il va chercher au moins chez Spinoza une base avec laquelle on peut discuter. Et là, je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose de tout à fait important qui nous montre comment un théologien chrétien peut sortir de ce qui est devenu au fond une banalité, à savoir Spinoza, auteur de théorèmes sur Dieu, sur l'âme et sur le corps. Et aller interroger la troisième partie de l'éthique, c'est quelque chose que peu de gens faisaient jusque-là et qui visiblement n'est pas là du tout par hasard sous sa plume. Je pense que c'est lié à son militantisme politico-religieux qui l'a amené à se poser ces questions-là. L'autre que je veux citer, c'est le père Breton. Le père Breton qui a fait un livre Spinoza, qui était venu à l'école supérieure faire des cours sur le traité théologique et politique. Donc ce père passionniste qui a parlé de Spinoza passionnément, si vous me permettez ce jeu de mots stupide, et qui a été assez intéressé par Spinoza pour essayer de s'expliquer sur Spinoza avec un théoricien marxiste, ou Althusser. Et je viens de lire le livre que Juan Domingo Sanchez Estop a écrit sur Althusser et Spinoza, bon, peu importe le livre lui-même, ce qui m'intéresse, c'est la fin. À la fin, il publie des pages inédites d'Althusser qui sont des notes qu'Althusser a prises après une discussion avec le père Breton. Donc le père Breton va voir Althusser, il discute sur Spinoza, et à peine le père Breton est-il sorti chez lui, qu'Althusser se met devant sa machine à écrire et note, 16 juin 67, discussion avec le père Breton sur Spinoza, il me dit « La dialectique de Hegel vient de Proclus ». Je lui signale que c'est aussi l'avis de Feuerbach. Althusser a traduit Feuerbach avant de s'adresser à Marx. Longue discussion sur la causalité, et le père Breton essaye d'expliquer à Althusser que la causalité dont se réclame Descartes, c'est une chose, mais que la causalité structurale dont parle Althusser, elle vient de Proclus. Elle vient de Proclus à travers Spinoza. Donc voilà Breton expliquant à Althusser le fond de la pensée d'Althusser, disant tu ne t'en rends pas compte, mais tu viens de Proclus, et en fait tu viens de Proclus à travers Spinoza et Thomas d'Aquin. Et après, il y a trois pages où Althusser continue à discuter. Non, c'est pas tout à fait vrai. Oui, d'accord, il y a bien chez Spinoza le vocabulaire de l'émanatisme comme chez les néoplatoniciens, mais il y a la coupure, la fameuse coupure épistémologique que Althusser voyait chez Marx. Alors là, il la ramène chez Spinoza pour dire, lorsque Spinoza utilise effectivement un vocabulaire qui vient des néoplatoniciens, il le transforme. Et puis, bon, les discussions apparemment continuaient un certain temps. Ils ont dû y passer tout l'après-midi parce qu'il y a 6 pages de résumé. Donc voilà. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que pour le père Breton, Spinoza était quelqu'un d'assez vivant, d'assez pressant à sa pensée pour que ça réapparaisse dans ses discussions avec des philosophes contemporains. Et le père Breton, théologien chrétien, discute avec un philosophe marxiste, ils sont pas seulement tous les deux dans la pièce, il y a aussi Proclus, Thomas d'Aquin et Spinoza qui sont là. Et c'est Spinoza qui a l'air d'être au centre du festin, si j'ose dire. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là et dire au fond, d'une certaine façon, le père Breton et Tillich représentent les deux fils que des théologiens chrétiens peuvent tirer lorsqu'ils veulent interroger Spinoza en évitant de répéter des banalités, soit des banalités anti-spinozistes, soit des banalités spinoziennes, puisque ça existe aussi. D'un côté, la fondation d'une éthique, Et d'autre côté, la recherche, au fond, d'un moteur intellectuel, d'un moteur conceptuel, qui remonterait au néoplatonisme et qui passerait par Spinoza pour insuffler une pensée structurale. Mais on pourrait aller plus loin, on pourrait aussi s'interroger sur, encore une fois, sur cette figure du Christ chez Spinoza. Alors, celui qui s'était intéressé à ça le premier, c'était celui qui a été le maître de Henri Lot, Alexandre Maturon, qui a été le premier à écrire un livre sur le Christ chez Spinoza. Et Maturon m'avait raconté que son livre n'avait eu absolument aucun... Alors que son grand livre sur l'individu et la communauté avait été salué de toutes parts par la critique, le livre sur le Christ n'avait eu aucun effet, ni critique positive, ni critique négative. Simplement, il avait reçu une lettre d'un ami qui lui avait dit j'ai lu ton roman intéressant. Ton roman intéressant. Ce qui veut dire que les lecteurs continuent à penser que le Christ est extérieur à Spinoza. Mais alors pourquoi est-ce qu'il en parle autant? Alors vous connaissez la réponse de Maturon. Pour Maturon, lisant Spinoza, le Christ de Spinoza, le christianisme de Spinoza, c'est la convergence entre deux séries causales que rien ne lie téléologiquement. On n'est pas chez Bossuet, l'une n'est pas faite pour l'autre. D'un côté, un individu, le Christ, qui universalise le message prophétique de la justice et de la charité. Donc, en un sens, le Christ ne dit rien de nouveau. Ce qu'il dit, c'est ce que disaient les prophètes avant lui. Simplement, il décortique le message des prophètes, il en extrait le noyau, grâce au fait que le judaïsme est en décomposition, le judaïsme politique en décomposition, ce qui permet qu'on peut extraire le message de justice et de charité du nationalisme dans lequel il était imbriqué, mais que les derniers prophètes avaient déjà commencé à décortiquer. Et puis, l'autre aspect, c'est que l'Empire romain a été créé et a donc permis que cette universalisation relativement abstraite devienne concrète parce que l'existence Empire romain a permis, je cite Spinoza, que le message du Christ soit connu tout de suite dans tout l'Empire. Et Henri cite à son tour cette phrase. Donc deux séries, d'une part une série politique, celle de l'universalité de l'Empire romain, et d'autre part une série théologique et éthique, la construction des messages universalistes par le Christ. Alors il reste une question à la fin du livre de Maturon, c'est pourquoi est-ce que c'est le Christ qui a réussi à faire cela? Et il reste cette formule énigmatique qui ne satisfait personne. Ce que dit Spinoza du Christ, alors d'abord ça ne peut pas satisfaire les chrétiens puisqu'il nie absolument que le Christ soit Dieu. Hein, il est clair que l'ultime frontière, c'est quand même là. Il n'y a pas de place pour une théorie de l'incarnation dans le spinozisme. La substance ne veut pas s'incarner dans un mode. Donc, apparemment, on peut être chrétien jusque-là, mais pas plus loin que là. Et quand même, la formule de Spinoza, ce Christ qui n'est pas Dieu, il a quand même fait ce qu'aucun autre homme n'a fait, si tant est qu'il s'agisse d'un homme. Dit Spinoza, formule étonnante, si tant est qu'il s'agisse d'un homme. Alors, ça suffira pas pour faire plaisir à un chrétien, mais en même temps, ça va beaucoup déboussoler un athée. Comment interpréter cette formule? Eh bien, je conclurai là-dessus. Je m'arrêterai sur cette question. Je vous remercie. Et toi, tu attends.
Je remercie beaucoup Henri Lot de m'avoir invité à prendre la parole à mon tour à propos de ce livre. Je suis conscient du caractère un petit peu paradoxal de cette invitation puisque, comme il est rappelé dans le livre à la page 23, Spinoza exclut de s'adresser aux théologiens dans son traité théologico-politique, mais il entend plutôt s'adresser aux lecteurs philosophes. Cependant, je crois que la critique vise en fait ceux qui méprisent la raison et qui sont esclaves de préjugés sous prétexte de religion. Et en fait, cette critique n'empêche pas Spinoza d'accorder valeur au contenu de la théologie. Et en tous les cas, rien n'empêche les théologiens de devenir eux-mêmes lecteurs, en sorte qu'ils deviennent à leur tour destinataire du traité. L'invitation qui m'était adressée s'éclaire plus précisément par l'objet même de ce livre, Spinoza et le christianisme, un livre qui fait large place à la réception de Spinoza dans la théologie chrétienne et qui montre comment le christianisme peut se laisser interroger en profondeur par ce philosophe. Je dois dire que j'ai lu et relu ce livre avec le plus vif intérêt. Parce que, d'abord, par-delà toutes les informations qu'il apporte dans son premier chapitre sur les écrits de Spinoza et sur les réactions qu'ils ont suscitées en son temps ou par la suite, il y a vraiment trois raisons pour lesquelles ce livre me semble très, très remarquable. Première raison, c'est que dès le premier chapitre et de nouveau dans le troisième, on a une présentation que j'ai trouvée extrêmement éclairante de la pensée de Spinoza dans ses orientations essentielles. Sa compréhension de l'État, sa critique des églises quand elles veulent se substituer à l'État, son analyse des passions, mais aussi la conception de Dieu, le regard porté sur le Christ et d'autres thèmes, bien d'autres thèmes encore. Un livre sur Spinoza et le christianisme devait effectivement prendre le temps de présenter la pensée spinoziste pour elle-même, une pensée dont les lignes de force dans le livre apparaissent d'autant mieux, me semble-t-il, qu'elles sont exposées sans un mot de trop, avec un art de la concision qui, si je peux me permettre cette litote, n'est pas indigne de l'âge classique. Ensuite, deuxième raison pour laquelle le livre me semble très remarquable, c'est que le deuxième chapitre, comme cela a été déjà dit, nous offre un parcours fort original. C'était, je crois, une très belle idée que d'interroger plusieurs théologiens, des théologiens contemporains, et de montrer à chaque fois la place qu'ils avaient faite ou non à la pensée de Spinoza. Et enfin, troisième raison de l'intérêt que j'ai porté à ce livre, c'est que le livre ne se contente pas de dire que la pensée spinoziste interroge le christianisme, mais il met lui-même en œuvre ce qu'il préconise, à savoir que dans son troisième chapitre, Henri Lowe reprend à son propre compte les questions centrales sur lesquelles il y a précisément divergence entre Spinoza et le christianisme. Et il montre comment la fréquentation de Spinoza offre à la théologie des ressources inattendues. Non pas bien sûr que la théologie doive relativiser les divergences qui demeurent, mais elle peut apprendre, pour reprendre une formule qui revient plusieurs fois, la théologie peut apprendre à penser davantage ce dont il lui faut rendre compte à la lumière de la révélation transmise par les Écritures. Sans revenir sur le premier chapitre, qui est si instructif sur la réception de Spinoza en son temps, je ferai le choix de m'arrêter sur sa réception dans la théologie contemporaine et sur la manière dont la pensée spinoziste peut aujourd'hui même inspirer le travail théologique. Sur le premier point, la réception dans la théologie contemporaine, l'impression d'ensemble est que la pensée spinoziste n'a pas été au total beaucoup convoquée par la théologie contemporaine, soit qu'elle ait été victime de la réputation d'athéisme ou de panthéisme qui s'attachait si souvent au nom de Spinoza, soit tout simplement que les théologiens ne l'aient pas rencontrée et qu'ils se soient plutôt intéressés à d'autres pensées philosophiques, ce qui en soi est légitime. Cette situation me semble contrastée en particulier avec la grande influence de la pensée hegélienne à laquelle se sont confrontés la plupart des théologiens protestants, depuis Karl Barth jusqu'à Wolfhard Pannenberg et Eberhard Hüngel, et aussi un certain nombre de théologiens catholiques, comme Hans Urs Balthasar ou Joseph Moin, que ce soit d'ailleurs pour se démarquer vigoureusement de Hegel, comme Balthasar, ou que ce soit pour s'en inspirer largement, comme Joseph Moin. Quant à Karl Rahner, théologien éminent du XXe siècle, Henri Lowe relève à peine 5 références à Spinoza dans les 32 volumes de son œuvre complète, de ses œuvres complètes. Non point que Rahner rejette a priori la pensée de Spinoza sous tous ses aspects, mais simplement, comme le dit Henri Lowe, son inspiration philosophique est ailleurs, dans la pensée de Kant, en particulier dans celle de Heidegger. Quant aux théologiens qui font davantage référence à Spinoza, de fait, comme cela a été également rappelé, ils le font parfois, pour reprendre cette distinction que l'on rencontre dans le livre, ils le font parfois sur un mode simplement illustratif, mais ils le font aussi, dans tel ou tel cas, sur un mode davantage dialogal, au sens où certains théologiens, sans méconnaître bien sûr les positions de Spinoza à l'encontre des doctrines chrétiennes, trouvent néanmoins dans sa pensée de quoi inspirer ou stimuler leur propre réflexion. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que les appréciations de la pensée spinoziste sont contrastées. Il y a d'un côté le jugement d'Henri de Lubac, qui était rappelé, jugement impressionnant, impressionnant par la lucidité qui le porte à souligner toute l'influence de Spinoza, influence beaucoup plus étendue et profonde que celle de la pensée kantienne, mais impressionnant surtout par sa sévérité, la sévérité de son diagnostic vis-à-vis d'une pensée qu'il juge plus néfaste que toute autre. Et d'un autre côté, il y a d'autres théologiens qui ont été bien plus accueillants à la pensée de Spinoza, ou qui, sur tel ou tel point au moins, se sont appuyés sur lui au bénéfice, en quelque sorte, de leur propre pensée. En tout cas, il y a une confrontation, une rencontre entre eux et Spinoza, une rencontre qui a été fructueuse dans l'élaboration ou pour l'élaboration de leur propre pensée. Effectivement, c'est le cas de Tillich et plus encore de Joseph Moin. Pour Tillich, Henri Lowe ne laisse pas entendre qu'il n'y ait pas ici ou là des erreurs d'interprétation de la part du théologien sur la pensée de Spinoza, mais l'attitude de Tillich est néanmoins dialogale au sens où la pensée spinoziste entre réellement dans l'argumentation de Tillich. Par exemple, effectivement, dans le refus de projeter sur Dieu des catégories finies, ou à travers la reconnaissance d'une unité de l'ontologique et de l'éthique. J'avoue avoir été particulièrement intéressé par le dialogue de Tillich avec Einstein, dont le Dieu était précisément le Dieu de Spinoza. Tillich maintient assurément contre Einstein la notion d'un Dieu personnel, mais il entend néanmoins la critique d'Einstein et à travers lui la critique de Spinoza, puisque Tillich est conduit par cette rencontre même, par cette confrontation, il est conduit à interroger la notion de personne. Que veut-on dire quand on parle d'un Dieu personnel ? Ne pas concevoir le Dieu personnel comme un étant parmi d'autres étants. Le penser plutôt comme suprapersonnel. Mais de tous les théologiens qui sont ici présentés, c'est certainement Joseph Moin qui est allé le plus loin dans ce qu'on peut appeler une véritable hospitalité vis-à-vis de la pensée spinoziste. Dans « L'homme qui venait de Dieu », Joseph Moin souligne l'importance de la pensée spinoziste à l'endroit même où l'on a dit et redit son incompatibilité avec le christianisme, à savoir à propos du Christ. Joseph Moin insiste en effet sur l'intérêt de Spinoza pour la figure historique du Christ, sur la valeur de son enseignement éthique et, comme vous le rappeliez, sur la portée universelle de son enseignement. Et Joseph Moin n'hésite pas à dire qu'il le trouve là comme un relais de l'annonce du Logos aux Grecs par les apologistes du IIe siècle. Cette découverte, écrit Joseph Moin, cette découverte qui rend Jésus à notre histoire et le lie si étroitement à elle, ne devra pas être effacée de la nouvelle christologie. Par la suite, Spinoza est à nouveau convoqué dans l'ouvrage « Dieu qui vient à l'homme » et il est hautement significatif qu'il le soit en particulier dans les toutes dernières pages, au moment où Joseph Moin médite sur l'espérance paulinienne que Dieu soit tout en tout. C'est pour Joseph Moin l'occasion de retrouver, moyennant une référence non seulement à Spinoza, mais aussi à Teilhard de Chardin, Joseph Moin retrouve à cette occasion la fameuse question du panthéisme qui a été reprochée au premier, Spinoza, et parfois aussi au second, Teilhard de Chardin. Joseph Moin prend le contre-pied de ses griefs pour dire que le mot de panthéisme n'a pas de quoi faire peur au christianisme. Certes, Joseph Moin prévient une conception erronée. Le mot panthéisme ne veut pas dire que Dieu soit constitué des éléments du monde, mais, précise-t-il, écarter cette conception doit précisément permettre d'accéder à la vraie signification du terme, à savoir la reconnaissance de Dieu tout en tout, selon l'espérance jadis formulée par Paul pour la fin de l'histoire. Donc Joseph Moins s'est vraiment confronté de ce point de vue à ce que le christianisme considère comme le plus difficile ou le plus problématique dans la pensée de Spinoza. Non pas d'abord pour lui opposer une réfutation, mais plutôt pour tenter, par la fréquentation de Spinoza, de penser davantage l'objet même de la foi chrétienne. J'en viens à la troisième partie du livre. Plutôt que d'offrir un résumé de ce qui est dit, et très bien dit dans cette troisième partie, je crois honorer davantage l'intention même de l'ouvrage en indiquant comment je me laisse interroger comme théologien par le propos de Spinoza et par la réflexion d'Henri Lot à son sujet. C'est paradoxal parce que je dois avouer que jusqu'ici je n'ai pas beaucoup rencontré Spinoza dans mes travaux, mais le livre invite justement à s'interroger à ce sujet. Et je le ferai en m'arrêtant seulement sur quelques questions qui m'ont davantage retenu. Quelques mots d'abord sur la manière d'interpréter l'écriture. Il est surprenant de constater que la position de Spinoza sur le sujet n'a pas beaucoup retenu l'attention des théologiens qui sont évoqués dans le livre, à l'exception de Pannenberg et de Joseph Moins surtout. Il est vrai que les exégètes semblent davantage concernés par cette position. Et Henri rappelle justement que Pierre Gibert a fait une place importante à Spinoza dans son histoire de l'exégèse critique. On pourrait de plus faire valoir que nous ne sommes plus aujourd'hui dans la situation de la crise moderniste et que désormais l'exégèse critique est bien davantage reçue. Il est vrai que pour un théologien, surtout s'il est patrologue, une lecture chrétienne des Écritures ne peut pas renoncer à chercher le sens spirituel des Écritures à la lumière du Christ. Mais la tentation pourrait être ici de s'autoriser de l'exégèse patristique ou médiévale pour contourner le nécessaire passage par l'étude critique du texte biblique dans sa lettre, dans sa littéralité. Et cette tentation existe réellement. Si je peux me permettre un aveu, c'est ce qui m'a conduit dans un petit livre à paraître bientôt sur la signification des dogmes, à consacrer pour la première fois un développement à Spinoza. Ce ne sont que quelques petites pages, mais je progresse tout de même. Entendons bien, il me paraît important de faire droit à ce qui était l'intuition essentielle des pères de l'Église et des auteurs médiévaux dans la recherche du sens spirituel. Mais penser avec Spinoza implique que cela ne se fasse pas au mépris des méthodes rigoureuses que réclame aujourd'hui l'exégèse critique. Et surtout, on ne doit pas oublier que les développements de Spinoza sont ordonnés à la libération de préjugés dont les effets peuvent être la superstition, la discorde ou la haine. Cela, bien sûr, doit être compris dans le contexte de son époque, mais il me semble que le théologien doit entendre que aujourd'hui encore, certaines manières d'utiliser ou de manipuler l'écriture peuvent avoir des effets néfastes dans l'ordre social, dans l'interprétation de certains événements, voire même dans le comportement ecclésial. Un théologien d'aujourd'hui doit d'autre part, me semble-t-il, entendre ce qui est dit avec tant de force sur les relations de l'Église et de l'État. Je cite, page 217, « L'Église n'a ni à se substituer à l'État, ni à entrer en concurrence avec lui. L'État, quant à lui, a autorité sur les pratiques extérieures du culte, celles qui engagent l'espace public, non pas sur le culte proprement dit ou le contenu de la foi. » Le propos de Spinoza, ainsi résumé par Henri Lot, me semble d'une grande actualité. Il l'est pour un pays comme le nôtre, car la laïcité, nous le savons, repose sur un équilibre fragile qui est toujours en passe d'être menacé. Il l'est a fortiori pour des pays dans lesquels une église ou une religion se trouve directement inféodée à l'État. Non moins actuels sont les vigoureux propos de Spinoza sur la liberté de philosopher, si du moins l'on entend leur portée pour la liberté de penser en général et pour la liberté de croyance. Celle-ci, comme le rappelle Henri Lot, a été certes affirmée solennellement par le Concile Vatican II, mais il n'est guère besoin de souligner que dans nombre de pays, elle n'est pas reconnue. Le plaidoyer de Spinoza pour la liberté conserve alors toute sa force et son tranchant. Bien d'autres thèmes seraient à reprendre à propos de la condition humaine, sur la base en particulier de très belles pages que le livre consacre à ce qu'il appelle la finitude houleuse. Mais je préfère en venir, pour terminer, à ce qui est le plus difficile, les points sur lesquels les divergences entre Spinoza et le christianisme sont vraiment radicales, à propos du Christ et à propos de Dieu, la conception de Dieu. Concernant le Christ, ce n'est probablement pas la position de Spinoza par rapport au miracle qui, me semble-t-il, poserait aujourd'hui le plus de difficultés. En effet, la théologie contemporaine a appris à ne pas considérer Dieu comme ce que Bonhoeffer appelait un Dieu bouche-trou, intervenant dans la nature là même où des humains seraient en mesure d'agir. La théologie contemporaine a aussi approfondi la signification des miracles attribués au Christ. Elle n'exclut pas que ceux-ci puissent éventuellement désigner des faits qui, bien que perçus en leur temps comme hors de l'ordinaire, seraient en fait susceptibles d'une explication naturelle, et leur caractère miraculeux tiendrait alors plutôt à la perception de ces faits comme signe d'une intervention divine. Il ne s'agit pas de laisser entendre que la divergence avec Spinoza serait ainsi surmontée. Le théologien maintient bien, sur le fondement des récits évangéliques, que des événements ont été perçus par certains comme sortant de l'ordinaire. Mais la critique de Spinoza invite au moins à ne pas penser cette intervention selon une pure extériorité. Ce n'est d'ailleurs pas ainsi qu'il se présente dans les évangiles. Les œuvres de puissance du Christ adviennent souvent dans un contexte relationnel et apparaissent moins comme des prodiges extérieurs que comme la restauration ou l'accomplissement d'une existence humaine jusque-là blessée ou meurtrie. Par contre, les positions paraissent devenir plus radicalement incompatibles lorsqu'il s'agit de la divinité du Christ, de l'incarnation et de la résurrection. Pour m'en tenir ici à l'incarnation, le constat est sans appel. Aux yeux de Spinoza, il y a tout simplement contradiction à penser Dieu comme ayant pris forme humaine. Pour Spinoza, écrit Henri, le Dieu substance, le Dieu nature, infinie totalité du réel, n'a rien en dehors de lui, il ne crée pas, il n'engendre pas, le Christ est homme, non pas Dieu. Cependant, Henri Lot invite aussi à reconnaître les vues de Spinoza sur l'excellence du Christ. Sa proclamation d'un message éthique achevé, ainsi que l'universalité de son message. Et par là, le Christ de Spinoza exprime au moins, dit-il, une part de la vérité de Dieu. De plus, si le mot Christ renvoie à l'existence historique de celui qui est ainsi nommé, Spinoza dit aussi que les prophètes ont été guidés par l'esprit du Christ, c'est-à-dire par l'idée de Dieu. Citation de Spinoza. Ainsi, écrit Henri Lot, si Spinoza ne tient pas la divinité du Christ, néanmoins, il va très loin dans la saisie de son universalité. Le théologien chrétien doit entendre cela. Il n'est évidemment pas possible d'aller plus loin, sauf à méconnaître le refus que Spinoza oppose malgré tout à la doctrine de l'incarnation. Mais je suggérerais que ce refus même peut paradoxalement conduire le théologien à approfondir le sens d'une telle doctrine de l'incarnation. Il faudrait en effet s'interroger sur ce que recouvre l'affirmation de Jésus comme vrai Dieu. Le risque serait de laisser entendre que les propriétés de la substance divine sont comme telles attribuées à l'homme Jésus. Ne faudrait-il pas pallier ce risque en présentant davantage l'incarnation comme l'événement par lequel le Fils de Dieu, précisément, selon la formule paulinienne, ne retient pas le rang qu'il égalait à Dieu? Le théologien ne prétendrait pas ainsi surmonter la divergence avec Spinoza, mais il lui incomberait au moins de montrer qu'une juste compréhension de la kénose permettrait de penser le Christ comme homme et Dieu. Il n'y aurait pas la contradiction logique, mais affirmation d'un paradoxe. Quant à la compréhension spinoziste de Dieu, il est d'abord clair qu'elle ne va pas dans le sens de l'insistance si marquée dans la théologie contemporaine sur la passion ou sur la souffrance de Dieu. telle qu'on la trouve développée, par exemple, par Jürgen Moltmann. Quel contraste entre cette insistance contemporaine sur la souffrance de Dieu, ou la passion de Dieu, et l'affirmation de Spinoza pour qui, je cite, « Dieu n'aime ni ne hait ». C'est l'exemple, comme le souligne Henri Lot, de deux pensées, Moltmann, Spinoza, deux pensées qui ne peuvent pas se rencontrer, non point par hostilité de principe, mais d'abord parce que le contexte n'est pas du tout le même. Il est clair que la théologie après Auschwitz, pour reprendre cette expression, ne peut pas parler de Dieu comme d'un Dieu impassible. La réflexion de Spinoza, quant à elle, me semblerait plutôt rappeler, mutatis mutandis, le vigoureux effort des présocratiques et d'autres penseurs grecs pour dépasser, pour surmonter des représentations anthropomorphiques du pathos divin. Et c'est sûrement un moment important de la réflexion philosophique qui doit être comme tel assumé, même si ce moment-là doit être aussi dépassé du point de vue du christianisme au nom de la révélation de Dieu comme amour. Au demeurant, Henri Lot attire l'attention sur la présence chez Spinoza lui-même du langage de l'amour à propos de Dieu. Dans ces passages de l'éthique où Spinoza évoque l'expérience de l'amour intellectuel de l'âme envers Dieu, qui est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même, et où il va jusqu'à ajouter que, je cite, « Dieu, dans la mesure où il s'aime lui-même, aime les hommes. Le salut consiste en un amour constant et éternel, autrement dit, en l'amour de Dieu envers les hommes. » Formule de Spinoza. Certes, si ample et si profonde que soit cette dernière pensée, le théologien chrétien ne peut pas pour autant l'annexer immédiatement à sa propre réflexion. Ce serait en effet méconnaître, que le Dieu de Spinoza n'est pas créateur. Il ne fait pas exister des êtres en dehors de lui. Les attributs de la substance divine et les modes qui en découlent ne sont pas une réalité distincte de cette substance, puisque tout est Dieu. C'est là que s'enracine le traditionnel grief de panthéisme vis-à-vis de Spinoza. Mais Henri, s'inscrivant ici dans la ligne de Joseph Moin à la fin de son livre « Dieu qui vient à l'homme », montre de manière, me semble-t-il, très convaincante que s'il faut bien prendre acte de la divergence de fond entre la conception spinoziste de Dieu et la doctrine chrétienne de la création, la rencontre de Spinoza peut cependant aider la théologie à reconnaître et peser la portée du langage paulinien « Dieu tout en tout ». Le Dieu de la foi chrétienne, certes, est créateur de ce qui est distinct de lui, mais le dessein de ce même Dieu est bien d'être présent à sa création, présent en elle, et présent en elle tout entière, Dieu tout en tout. La divergence avec Spinoza demeure, mais la rencontre de sa pensée ne conduit-elle pas néanmoins à affirmer, plus nettement qu'on ne l'a souvent fait, cette perspective eschatologique d'une présence de Dieu en toute chose. Si l'on doit être bien conscient de la divergence de vue à propos de la création, n'est-ce pas alors du côté de l'eschatologie qu'une telle rencontre est davantage possible? On pourra certes objecter que les drames et les tragédies de l'histoire, sans oublier ceux qui sont infligés à la nature elle-même, paraissent entraver l'avènement d'un monde où Dieu puisse être tout en tout. Mais on ne peut du moins nier que l'affirmation d'une telle présence de Dieu en toute chose soit dès les commencements inscrite dans l'eschatologie chrétienne. Et n'est-ce pas finalement à cette affirmation que la théologie chrétienne de la création est elle-même ordonnée? Le livre d'Henri Lot, vous le voyez, m'a convaincu que la théologie pouvait se laisser interroger par la pensée de Spinoza et que, sans se dissimuler les points de rupture entre cette pensée et le christianisme, la théologie pouvait apprendre ainsi à penser davantage ce qui est l'objet de sa propre réflexion. Nous pouvons donc être, je crois, très reconnaissants pour ce livre, non seulement pour ce qu'il dit de Spinoza, mais pour tout ce qu'il apporte aux théologiens autant qu'aux philosophes pour l'exigeant dialogue qu'il engage avec la pensée spinoziste, pour l'exigeant dialogue qu'il engage entre la pensée spinoziste et le christianisme, et finalement pour l'invitation qu'il nous adresse à entrer nous-mêmes dans une telle conversation.
Merci beaucoup à l'un et à l'autre. C'est maintenant à Henri de prendre la parole.
Voilà, merci Camille. D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus nombreux ce soir pour cette séance. Voilà, je vous remercie vraiment parce que c'est un honneur que vous me faites d'être là, et c'est un encouragement aussi pour ce travail, pour cette recherche, de voir qu'il suscite de l'intérêt. Donc vraiment un très grand merci. Merci bien entendu aux intervenants de ce soir, Pierre François, Michel Feydeau et puis Camille aussi, qui y a introduit cette soirée. Voilà, merci pour leur intervention, leur réflexion, voilà, qui témoignent de leur autorité dans les domaines qui sont les leurs. Alors, au sens strict, je ne vais pas faire une conférence ou redire évidemment tout ce qu'il y a dans le livre, c'est guère possible, mais j'ai noté comme ça, en réfléchissant sur cette entreprise, trois points. Voilà, trois points de réflexion. Dont le dernier plus personnel peut-être que j'aimerais vous livrer maintenant. D'abord, le premier point, le sujet, le thème de cet ouvrage, je peux dire que ce sujet s'est peu à peu imposé à moi et qu'il a mûri de façon progressive. Alors, ce n'est pas la première fois que je réfléchissais sur la question de la religion. Bon, il a été rappelé que mon premier travail avait consisté en une étude sur la question de l'imagination et de la religion. Donc, là, pas simplement la religion en tant que telle, mais la question de l'imagination, ce genre de connaissance qui peut être décrié et... en voyant à quel point Spinoza le réévalue et comment il affirme sa force dans le champ religieux. Donc il y avait eu déjà cette étude il y a maintenant quelques temps, où la question du Christ aussi, la lecture des Écritures occupait une place centrale, mais dans une perspective tout à fait différente. Alors il y avait eu aussi une intervention sur Spinoza et les théologiens qui m'avait été demandé il y a quelques années dans le cadre d'un séminaire, mais c'était une intervention brève. Voilà, j'avais peut-être rencontré l'un ou l'autre théologien, mais sans plus. Et à la suite de cela, je crois, un article m'avait été demandé pour une revue de théologie coréenne, enfin, sud-coréenne, une revue sur la question de Dieu. Je ne sais pas si la précision est utile. Voilà, sur le Dieu de Spinoza, quelle peut être la signification du Dieu de Spinoza pour le christianisme. J'avais dû risquer quelques hypothèses et quelques points, évidemment, qui m'ont aidé à mûrir la réflexion de ce livre qui est beaucoup plus global. Mais c'était encore très, très particulier, très limité. Et puis j'ai pris conscience qu'il fallait élargir le sujet et penser quelque chose d'autre. D'où la construction de cette réflexion sur laquelle je reviens un petit peu, construction en trois chapitres. Premier chapitre, Spinoza et la question du christianisme en son temps. Deuxième chapitre, sa réception chez les théologiens contemporains. Et puis le troisième, Spinoza pour la pensée chrétienne. En soi, chaque chapitre pourrait faire l'objet d'une étude beaucoup plus développée ou l'objet d'un livre. Après tout, chacune de ces études pourrait se lire indépendamment l'une de l'autre, la réception de Spinoza en particulier. Pourquoi pas, mais tel n'était pas mon projet, hein, tel n'était pas l'objectif que je poursuivais, et je crois que développer d'ailleurs beaucoup plus chacun de ces chapitres n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt, hein, par rapport à ce que je visais. Donc, dans un premier temps, il s'agissait de faire le point. Faire le point, pour beaucoup, on sait des choses, hein, sur la question de Spinoza et de la religion et du christianisme et du Christ. Pour beaucoup, on sait des choses. Pour d'autres, on a une perception qui peut être vague et finalement assez générale du rapport de Spinoza aux religions et au christianisme. On a entendu parler du panthéisme. Vous savez, quand je donne un cours sur Spinoza, quand je parle de Dieu, la première question qui va venir, c'est « Mais Spinoza n'est-il pas panthéiste ?» Je peux parier que la question arrivera toujours et dans les premières. Hein, voilà. Donc, on sait des choses. Spinoza critique, Spinoza panthéiste, Spinoza rejeté, etc. Je trouve qu'il fallait clarifier ce domaine, et les habitués de Spinoza n'apprendront peut-être pas grand-chose, encore que, parce que ce que je me suis efforcé de faire, c'est de mettre de l'ordre, c'est de distinguer les différents des niveaux du discours pour sortir d'une perception indifférenciée. Et comme il y a été fait allusion, je distingue d'abord la critique que fait Spinoza de certaines pratiques du christianisme, les manipulations qui ont pu être faites par des théologiens, par des autorités théologiques, en lien avec des autorités politiques, le refus d'accepter l'autorité de l'État, etc., toutes sortes de violences. Et après tout, le XVIIe siècle, enfin, il faut aussi se situer dans cette époque, XVIe, XVIIe siècle, les conflits religieux en Europe qui ne sont pas tendres. On périt vite, ou sur le bûcher, ou ailleurs, ou sous la torture, lorsqu'on refuse de parler d'un dieu trinitaire. Voilà, dans un pays comme les Pays-Bas, où la liberté de penser est la plus forte, hein, de tous les pays d'Europe, il suffit de peu, tant même, pour être traité dans les geôles du régime, et donc dans une compromission des autorités théologiques et politiques. Donc, dans un premier temps, il y a une critique des pratiques du christianisme, mais comme je dis, une critique dépassable, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, on peut le penser, en tout cas l'espérer et le penser, intrinsèquement lié au christianisme. Il y a des contextes, il y a des phénomènes d'une époque, évidemment, qui peuvent revenir, qui peuvent menacer à toutes les époques, mais de soi, ils ne sont pas liés à une dogmatique. C'est un premier niveau qui est le plus facilement compréhensible et dépassable. Mais ensuite, il y a une critique, on peut dire, de la dogmatique, ou de la doctrine, hein, du christianisme, le fait de nier l'incarnation, alors même que le Christ est une figure fortement valorisée chez Spinoza. La résurrection doit s'entendre, d'après lui, d'une façon allégorique, hein, d'une façon spirituelle. Il y a quelque chose à entendre, hein, d'ailleurs, dans cette manière de penser la résurrection. Mais on n'ignorera pas que Spinoza parle du Christ comme celui qui, par la sainteté de sa vie et de sa mort, est entré en possession de l'éternité. Alors on va dire, que de quoi s'agit-il dans l'éternité ? On ne peut pas rester indifférent devant une formule ou des formules de ce type-là. Et puis il y a à savoir aussi, il y a à repérer les accusations d'athéisme adressées à Spinoza, mais comment il se défend ? Comment il se défend et pourquoi il se défend, hein, de ces accusations d'athéisme? Il y a à comprendre aussi dans quel milieu il pense. peut-être qu'on est plus attentif actuellement qu'avant au milieu dans lequel se produit, s'élabore et s'échange une pensée. Et le milieu dans lequel il réfléchit n'est pas pour rien dans la compréhension de ce qu'il montre, de ce qu'il pense. Voilà. Donc cela, il importe de voir que Spinoza vit dans un milieu ouvert au christianisme. Il a été exclu de la synagogue. Il n'est pas chrétien, mais il vit dans un milieu de chrétiens, de calvinistes, plutôt en marge de leur église officielle, mais il parle, il discute avec eux, loin de l'image qui s'est longtemps imposée d'un homme solitaire, vivant de la taille des vers, etc., etc., tout seul, sans doute très triste, etc., etc. Non, c'est pas du tout ça. On arrive à redécouvrir un autre Spinoza, heureusement, et ce n'est pas secondaire. Voilà, il vit dans un milieu, il a des relations, il pense, il échange, et l'introduction récemment publiée aux opera postuma, aux œuvres posthumes, montre bien le travail de ses amis. Donc je crois que ce premier temps est une étape, enfin pour moi était en tout cas une étape indispensable pour savoir de quoi on parle et une étape peut-être encore peu systématisée jusqu'à présent. Bien entendu, beaucoup d'études, Pierre-François a parlé du livre d'Alexandre Matron sur le Christ, le salut du Christ, enfin le salut des ignorants. Voilà, des études sur différents aspects de la religion, etc. Mais je crois qu'il fallait poser les bases dans cette clarification du premier chapitre, les bases nécessaires pour une discussion. Alors, le deuxième chapitre, de fait, qui est assez nouveau, consistait à voir comment, si on parle du christianisme, mais qu'en dit le christianisme à l'époque contemporaine, disons XXe siècle et jusqu'à présent. Après tout, les théologiens sont les marqueurs de la réception du christianisme. Ils en sont les marqueurs, ce qu'ils en disent quelque chose d'eux-mêmes, bien entendu, ils disent quelque chose de la place de Spinoza, et c'était l'intérêt, je crois, de voir le dialogue, la réception ou la non-réception que l'on pouvait identifier. D'où cette enquête que j'ai divisée en deux sections. Il y a d'abord les classiques, un peu les classiques du XXe siècle, alors Barthes, Balthazar, dont le traitement de Spinoza est assez impressionnant par sa faiblesse d'ailleurs, et qui montre un certain rapport à la philosophie, et puis Rahner, mais le principal de ces classiques, c'est Illich. Sa découverte a été une surprise, à la fois sur les questions éthiques, la question de l'ontologie. Donc une enquête sur les classiques et puis quelques théologiens plus actuels. Je crois qu'il ne fallait pas les ignorer. Voilà, Pannenberg, Moltmann, Jungel, et puis Joseph Moin. Alors, je peux dire que, alors, où fallait-il s'arrêter? Fallait-il s'arrêter? Évidemment, je n'avais pas l'imprétention de faire la réception totale, voilà, que chez tous les théologiens de l'époque contemporaine. Mais il me semblait utile de montrer l'usage, qui pouvait être fait de Spinoza dans la pensée théologique. Alors certaines entrées sont assez minimes, mais comme je le dis aussi, accueillir Spinoza, une réception de Spinoza dans une théologie ne s'impose pas nécessairement. Hein, la valeur d'une théologie ne va pas se vérifier au fait qu'elle reçoit Spinoza ou non. Hein. On peut très bien penser théologiquement sans se référer à Spinoza. Mais lorsqu'on se réfère à Spinoza, qu'en dit-on ? Et c'est ce que l'on dit de ce rapport qui est évidemment éclairant. C'est dans ce sens qu'il y a une véritable réception. Alors, ce que je voulais montrer à travers cela, et je dois dire que dans ce chapitre, les deux tiers, hein, quantitativement, les deux tiers des pages concernent Tillich, moi et Breton. Hein, parce que ce sont évidemment les apports les plus riches, ceux qui apportent le plus à la réception de Spinoza. La réception de moi en particulier est tout à fait impressionnante. Bon, je n'en dis pas plus. Il ne faudrait pas croire qu'elle est un aboutissement définitif, hein, et que l'histoire de la théologie est partie de l'obscurantisme pour arriver aux lumières, hein, que l'on trouve chez Joseph Moins dans le rapport à Spinoza. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que au moins une lecture est possible. Au moins une lecture dialogale, une lecture qu'on peut dire constructive, enfin qui est allée au cœur, je crois, de la puissance de vie et de signification de la philosophie de Spinoza. Une telle lecture est possible. On la découvre chez un théologien. Et le troisième chapitre, eh bien, c'est Spinoza pour la pensée chrétienne. Je ne vais pas évidemment redire ce qu'il y a dans ce chapitre. Mais je peux dire que l'attitude qui a été la mienne, c'était non pas d'annexer Spinoza, ni d'en montrer la radicale opposition au christianisme, mais il ne s'agit pas non plus que Spinoza apporte des outils ou des notions, non pas de se demander comment il peut influencer le christianisme, mais comment il peut le provoquer. Comment il peut le provoquer et en particulier le conduire à explorer à nouveau son propre discours. À explorer son propre discours et tout cela à travers un jeu de convergence et d'écart à un certain niveau. Voilà, ces trois chapitres, en fait, ils disent un plan. Pour moi, ils veulent dire un mouvement. Le livre, c'est un mouvement, et le troisième chapitre, qui peut sembler un aboutissement, voilà, qu'en est-il de Spinoza pour la pensée chrétienne, eh bien, il est déjà ce qui soutient le premier et le deuxième chapitre. Les deux premiers chapitres ne sont pas des préalables, mais déjà, ils portent l'idée du dialogue, ils sont animés par l'idée du dialogue possible, d'un débat, et sur les questions les plus difficiles. Alors, mon deuxième point maintenant, tout cela pour dire que cette réflexion, c'est une aventure. C'est une aventure pourquoi ? Parce que comment faire que cette confrontation impossible entre Spinoza et le christianisme soit rendue possible ? Comment penser la confrontation ? C'est une aventure. Pourquoi ? Parce que c'est un terrain délicat, Spinoza et le christianisme. Délicat au temps de Spinoza. On l'a vu, je le rappelle, les oppositions, les reproches, mais délicat dans l'histoire qui a suivi, XVIIIe siècle en particulier, les Lumières. Alors, une réputation de mysticisme est arrivée, bien entendu, mais les jugements portés sur Spinoza, et puis au XIXe siècle, et puis il n'y a pas si longtemps, et puis peut-être encore maintenant, font que tout cela est un terrain tout de même délicat. Et donc, il s'agit de respecter Spinoza, mais précisément, le respecter, c'est faire droit à la puissance de signification de son œuvre, c'est le rencontrer en son centre, et non pas en ses marges. Parce qu'après tout, il est toujours facile de rencontrer un auteur en ses marges, dans ce qui est le plus facilement compréhensible. Non, l'objectif est d'aller là où c'est le plus difficile. Là où c'est le plus difficile. Parce qu'il y a des acquis, il y a ce qui dit sur la laïcité, par exemple. Voilà, je crois, et nous sommes dans un contexte, dans une époque, qui le rend plus facilement accessible. Ce qui est dit de Dieu, de la substance, de la création, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est précisément là qu'il est intéressant d'aller au cœur de la difficulté. Et Michel a parlé de la question de la création. Et oui, en effet, le modèle Spinoza, le Dieu de Spinoza n'est pas un Dieu créateur. Mais ce qu'il dit de cette productivité infinie, de cette substance qui s'exprime dans une infinité d'attributs infinis, qui s'exprime eux-mêmes dans des modes, hein, dans un complexe, dans un infini mouvement d'interrelations, de compositions, etc. Est-ce que tout cela ne nous donne pas des moyens pour comprendre autrement la question de la création ? Non pas simplement comme celle de l'artisan producteur, mais comme ce mouvement d'interrelation de tout ce qui se produit, se reconfigure. Alors évidemment, c'est une autre intelligence de la création, c'est une autre manière aussi de penser Dieu, mais qui n'est pas forcément déconnectée du Dieu que la théologie chrétienne peut penser. Alors je dis, c'est un terrain délicat aussi, parce qu'il m'est apparu que le sujet, finalement, le sujet en tant que tel était nouveau, hein, bon, on a pu... On connaît la question des Écritures, la théologie politique, mais je crois que globalement, enfin, poser cette question d'une manière systématique, je crois que cela, en effet, montre peut-être et certainement, enfin, à mon sens, une certaine nouveauté dans la manière de traiter Spinoza. Je dirais que c'est une aventure aussi, mais une aventure qui est rendue possible par la vitalité du milieu de recherche spinoziste aujourd'hui et en France en particulier. La connaissance historique du milieu de Spinoza, la connaissance, l'édition des textes, tout cela a passé des seuils. Il y a des choses que l'on ne peut plus dire et des choses d'autres qui apparaissent que l'on peut dire. Je veux dire par là qu'il y a toute une aventure collective, je crois, de la recherche spinoziste, particulièrement en France, qui est faite d'exigences académiques, mais aussi d'amitié, de générosité, d'ouverture intellectuelle, et tout cela rend possible des gestes d'interprétation qui sont nouveaux. Cela, je tenais vraiment à le dire ce soir. Alors j'ai quelques minutes peut-être encore, Madame la Présidente, pour dire quelque chose de mon propre rapport à Spinoza. Alors là, d'une certaine façon, c'est plus intime, mais la conclusion du livre, j'ai toujours du mal avec les conclusions, parce que on a l'impression qu'une conclusion, c'est ce qui doit donner la solution. Enfin, voilà, on a écrit des pages. Des pages et des pages, peut-être, et puis on va conclure. Donc on va dire ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut comprendre, le définitif finalement, comme si tout ce qui avait précédé n'avait rien dit de ce que l'on veut, hein, de ce que l'on veut exposer. Alors la conclusion, eh bien, écoutez, vous la verrez, mais elle est plutôt une signature personnelle, notamment lorsque je parle de l'expérience de la lecture de Spinoza. Je crois qu'on peut en parler en termes d'expérience et de ce que cela apporte. Alors, dans ce dernier point là, où j'ai dit mon propre rapport à Spinoza, je voudrais reprendre quelques aspects très brièvement que j'avais présentés l'année dernière dans un séminaire, étaient présents dans ce séminaire pour fêter le 20e anniversaire du séminaire de Chantal Jacquet, Ariel Suami et Pascal Sévrac à la Sorbonne. Les intervenants étaient invités à dire quelque chose de leur Spinoza de cœur et d'esprit. Voilà. Non pas apporter des nouveautés, de l'érudition, mais dire en quoi Spinoza leur tenait à cœur et à esprit. Et je vais intituler mon intervention, dont je donne quelques lignes simplement, Spinoza pour penser davantage, virgule, avec ce qui s'ensuit. Trois points de suspension. Davantage, ça peut se traduire magis aussi d'ailleurs, en latin. Alors, Spinoza pour penser davantage, je dirais oui, Spinoza, une pensée pour aller plus loin, pour aller au-delà des évidences. Et c'est un fait que la pensée de Spinoza apparaît comme l'une des plus novatrices que nous connaissions dans la modernité, inclassable à plus d'un titre, certainement, dans ce XVIIe siècle, fondateur de la pensée moderne. Et c'est une pensée qui a cette capacité. Je vais être un peu chauvin, certains diront peut-être, mais en tout cas, elle a cette capacité plus que tout autre à rencontrer les questions les plus aiguës du temps et à renouveler bien des disciplines. Alors, il est vrai que je me sens bien au XVIIe siècle chez un certain nombre de ses contemporains. Je rencontre toujours, je n'en nomme aucun, mais je rencontre toujours chez eux quelque chose qui va de soi ou que je comprends dans son évidence, chez Descartes, chez Hobbes ou d'autres, et qui me rassure. Je m'y sens bien. Seulement, s'agit-il de se sentir bien chez un auteur? Alors oui, certainement, mais pas trop vite, pas avant d'avoir suivi le travail du concept et de demeurer au lieu même où s'affrontent les questions, non pas s'y sentir bien, mais sentir l'exigence de penser toujours plus loin. Or, précisément, me semble-t-il, Spinoza commence par mettre son lecteur dans l'intranquillité. L'intranquillité. Chacun, je crois, et quelles que soient ses convictions ou ses engagements, éprouvera ici ou là un peu, beaucoup ou moyennement quelques difficultés à la lecture de Spinoza. Alors, pas de l'ordre d'une compréhension technique, parce que là, des difficultés d'ordre technique, il y en a à foison, hein, prenons la lecture de l'éthique, mais plutôt une difficulté qui est de l'ordre d'une alerte, d'une urgence ou d'une prise de conscience sur tel ou tel point. Si, au commencement de son œuvre, eh bien, l'entendement est sommé de se réformer, rien de ce qui vient à l'entendement ne sera indemne de cet examen et de cette révision. Et de proche en proche, c'est l'intégralité de l'existence qui est interrogée, qui est comprise à nouveau et qui est redonnée à elle-même. Les frontières du savoir sont transgressées ou les savoirs sont mis en relation. J'ajoute que cette intranquillité, elle ne se rencontre pas seulement, ou elle ne rencontre pas seulement tel lecteur, mais elle rencontre des époques. Et d'ailleurs, elle a rencontré et bouleversé toute l'époque elle-même de Spinoza et la suite, hein, comme l'attestent les réactions suscitées en son temps et dans les Lumières et jusqu'à aujourd'hui. Alors cette capacité de Spinoza à déstabiliser la pensée, ou plutôt sa provocation à penser autrement, et donc davantage, elle se vérifie dans l'enseignement. Il y a quelques étudiants ici du Centre Sèvres et je suis frappé de l'intérêt rencontré par des étudiants, des auditeurs à lire Spinoza et bien plus que d'un intérêt au sens où l'on dit bon c'est intéressant, je me cultive, ceci n'est pas sans pertinence, hein, il s'agit souvent de retournements qui mobilisent les affects de la façon la plus personnelle. Alors c'est peut-être dangereux parfois, mais en tout cas c'est l'occasion d'une véritable expérience, expérience personnelle. Je crois que plus que d'assimiler des thèmes ou des notions dans le grand manuel de la philosophie, ou dans les grands commentaires de la philosophie, eh bien on découvre alors la vie de la pensée. Et Spinoza n'a évidemment pas le monopole de stimuler les intelligences, mais j'observe que celles qu'il pénètre, eh bien, en reçoivent une belle liberté. Alors pourquoi cette force germinative dans une pensée somme toute austère, ou semble-t-il, eh bien, la géométrie de l'éthique, cet ordre géométrique, on le sait, en décourage plus d'un. Et l'accompagnement d'un guide est toujours utile, et d'ailleurs Spinoza lui-même s'efforce d'accompagner ce lecteur. Mais pour ma part, eh bien, je crois qu'il y a une esthétique de la lecture chez Spinoza, une esthétique de la lecture de l'éthique. Je me cite simplement, page 174, « La géométrie de l'éthique, dans sa rigoureuse austérité déductive, se donne comme poésie lorsqu'elle est sentie autant que comprise. » Une expérience de la lecture, lorsqu'on sent le texte, lorsqu'il s'unifie dans sa proposition. Voilà, en réalité, Spinoza pense la nature historique des modes finis que nous sommes aussi. Les modes finis sont toujours des événements, des interactions, des accommodations aussi, les uns aux autres. Les institutions aussi sont dans des rapports d'accommodation, on pourrait dire des mises au point au sens optique du terme, et c'est cela qui m'intéresse en tout cas beaucoup chez lui. Alors, qu'est-ce qui suit de tout cela, je disais, Spinoza, pour penser davantage, plus profondément? Ben, ce qui suit notamment, alors c'est beaucoup de choses, mais c'est d'abord la joie ou le plaisir de lire un texte qui donne de quoi penser plus profondément. Et dans ce davantage, il y a le plaisir d'une rencontre simple, l'invitation au dialogue. Et c'est un peu ce que j'ai tenté dans ce livre, et c'est dans ce sens qu'il me tient à cœur, et c'est un sens qui représente pour moi un moment très singulier et particulièrement heureux. Et pour le dire autrement, je ne peux que reprendre la dernière phrase de la conclusion, mais elle a déjà été reprise par Michel Feydeau, qui m'a précédé. Je disais que dans ce travail qui porte sur Dieu, sur l'homme, sur la société, eh bien, dans ce travail de réflexion qu'il a produit, élaboré en son temps, avec d'autres, dans un cercle très singulier, eh bien, dans ce travail, Spinoza n'aurait pas refusé, je crois, d'élargir le cercle de ses interlocuteurs. Il a initié une conversation, il invite à l'entretenir. Point. Et au fond, c'est bien ce que nous faisons et essayons de faire ce soir. Je vous remercie.
Merci infiniment, Henri. Eh bien, maintenant, nous avons une vingtaine de minutes pour les questions. Merci.
Oui. La première question, la question de la résurrection, je crois qu'on y a fait allusion, c'est-à-dire que Spinoza est très clair par rapport à l'incarnation. Dieu n'a pas pris chair, il ne peut pas prendre chair. Ce n'est pas une critique, c'est une impossibilité ontologique. Il n'y a pas rupture de l'ordre de la création ou de l'engendrement. Spinoza ne remet pas en cause l'historicité du Christ et de Jésus, c'est tout à fait clair, il n'y a aucun doute sur ce plan. Ben, quant à la résurrection, c'est dans la correspondance avec Oldenburg qu'il en parle, et où il a des formules extrêmement fortes. Je rappelais notamment celle-ci. Enfin, le Christ entrait en possession de l'éternité par la sainteté de sa vie et de sa mort, c'est-à-dire de son message, de sa proclamation, de son comportement, au fond par tout ce qu'il a été, et dit-il aussi par sa mort, par sa passion, par la manière dont il a vécu. Donc il faut comprendre dans cette expression quelque chose de très intégrateur hein, et une manière de récapituler, enfin voilà, tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il entend dire du Christ, hein, du message du Christ, de son excellence. Hein, le Christ est dans la nature humaine, il est au-dessus de la nature humaine, tout en étant dans la nature humaine, évidemment. Il n'aurait pas de sens à dire qu'il est hors de la nature, mais il est un sommet, hein, de cette nature. Alors vous faites ensuite allusion à nous sentons et nous faisons l'expérience que nous sommes éternels. Enfin, vous connaissez certainement le livre de Pierre-François Moreau sur l'éternité, sur ce sujet-là. La deuxième question, je ne sais pas bien comment vous répondre. Hein, vous arrivez au XXIe siècle. Alors vous évoquez en effet certaines pensées, la process théologie et d'autres, le domaine des sciences. Alors, bon, je ne suis pas suffisamment familier, hein, des recherches, voilà, qui interviennent en ce domaine, ni en fait des conceptions de la physique. Hein, voilà, Spinoza s'exprime dans la physique d'une époque. Il ne prétend pas faire un traité scientifique. Bon, alors, il y a une petite physique dans l'éthique, hein, pour parler des corps, etc., du mouvement, mais on n'a pas au sens strict, enfin, on ne va pas trouver une correspondance, peut-être avec les questions que vous évoquez. En même temps, l'ontologie de l'éthique, enfin, peut-être que je me risque, enfin, l'ontologie de l'éthique est ouverte à des compréhensions, à des significations, certainement qui sont à formuler dans les langages qui sont les nôtres, mais cette productivité, cette dynamique de la nature qui est Dieu, hein, dynamique de la nature, cette infinité d'expressions, de relations, de composition, de recomposition, voilà, je ne peux pas vous dire comment tout cela peut être pris en charge, hein, par la pensée scientifique aujourd'hui, mais je crois qu'il y a vraiment dans la pensée de Spinoza et dans l'éthique en particulier un lieu, voilà, qui doit permettre de penser, enfin, beaucoup de cet ordre-là. Mais voilà, Pierre-François a certainement, voilà, d'autres réponses ou des réponses à cette question. Pour ce qui est de la lecture des théologiens, dans le choix que j'ai fait, il y a pratiquement autant de protestants que de catholiques. Jacqueline Lagré m'a fait voir qu'il y a peut-être un peu plus de protestants. Mais dans les classiques, on trouve de fait Balthazar Ranner de Lubac, Barthes pour les protestants, Tillich aussi. Voilà. Il y a à la fois de la fermeture et de l'ouverture. J'ai envie de dire indistinctement. Finalement, dans les œuvres, les théologiens que j'ai choisis, parce qu'il y avait une présence de Spinoza, mais Michel peut compléter ce point, je n'ai pas trouvé que ce soit discriminant, qu'il soit catholique ou protestant. C'est plutôt l'époque, hein, l'époque qui joue et la pensée théologique aussi s'inscrit dans un temps. Donc elle peut entendre les relais d'interprétation que donne la philosophie. Enfin, le fait que des pensées, le fait que Spinoza, par exemple, soit beaucoup plus présent dans la culture actuellement, hein, comme on le voit dans le nombre des publications qui paraissent, fait qu'il y a sa présence, voilà, peut influencer beaucoup plus des pensées théologiques. Voilà. Lorsqu'il était très très marginal. Plus marginal que maintenant, certainement, et puis présent selon une certaine inspiration plus spiritualiste, enfin, ou ou laïco-spiritualiste, enfin, il y a eu un petit peu toutes les nuances au XXe siècle ou dans la première moitié du XXe siècle. Le contexte d'interprétation de l'œuvre de Spinoza joue évidemment sur la manière dont il va être pris en charge par des théologies. Et je crois que actuellement, comme je le disais, cet aspect confessionnel ne me semble plus. Mais je te remercie beaucoup de revenir sur ce point, parce que c'est de fait un point central du troisième chapitre, hein, Spinoza pour la pensée chrétienne. Le premier point, c'est l'ampleur de l'affirmation de Dieu, et le deuxième point qui est lié, c'est bon. Parce que c'est une réflexion sur la condition humaine, à la fois positive, finie, dans une infinitude, et une condition houleuse. Les deux points sont liés. Mais le premier, c'est le plus, dans la réflexion proposée, c'est le plus difficile. Mais c'est, à mon avis, c'est le plus radical dans ce troisième chapitre, l'ampleur de l'affirmation de Dieu. C'est-à-dire entendre dans la proposition de Spinoza non pas une limitation, non pas une réduction, non pas un providentialisme facile, qui réglerait toute difficulté, qui peut être vite battue en brèche, mais une ampleur de l'affirmation de Dieu, c'est-à-dire une puissance de Dieu qui n'est pas une omnipotence, qui n'est pas ce pouvoir ou cette puissance qui condamne, enfin qui passe par tous les actes d'une volonté que l'on projette, etc., et qui est censé résoudre ceci et cela, mais une infinité de vie qui traduit dans sa diversité et dans cette infini de diversité et d'événements et de qualités qui traduit peut-être ce que le christianisme cherche à dire dans sa théologie, alors notamment dans une théologie trinitaire. Il faut des mots, il faut des concepts, il faut des notions pour penser le mystère de Dieu, hein. Mais une ampleur de l'affirmation de Dieu dans laquelle le Christ de Spinoza a sa place. Et je relevais cet apax dans le Nouveau Testament de l'expression aussi de l'esprit du Christ qui avait informé les prophètes. Spinoza, dans l'éthique, parle de l'esprit qui avait agi dans les patriarches. On trouve dans un écrit, je ne sais pas si c'est dans les Galates ou un autre texte, cet apax, cet usage de l'esprit du Christ qui a travaillé dans l'histoire. Je trouve que là, il y a un éclatement des représentations, en tout cas, et je crois qu'il faut le prendre au sérieux. Et qui est une provocation, de fait, provocation pour le christianisme à penser, oui, ses propres discours, à les renouveler, en pousser peut-être plus loin la compréhension de leur profondeur. Voilà, pour risquer des mots de cet ordre-là.
Nous avons le temps pour trois dernières questions. Oui.
Oui, je donne la parole, parce que je ne parlerai pas tout à fait de valeur chrétienne.
Oui, juste une remarque. Vous appelez ça valeur chrétienne, on pourrait aussi bien dire que c'est valeur juive, ou des valeurs de beaucoup d'autres religions.
Monsieur, oui. Vous aviez une question aussi.
Enfin, oui, voilà, je dirais sur ce point, Spinoza, bon, ben, réfléchit, voilà, dans les valeurs, les termes de l'éthique, etc., les passions, tout ce langage des passions disponible à une époque, hein, que manient les spirituels, les philosophes, le théâtre, voilà. Il n'y a pas un spécifique chrétien en tant que tel, quoi.
D'accord. Une autre question pour conclure, non, Henri?
Simplement sur la question de l'athéisme, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Donc, notamment un article de Pierre-François Moreau qui montre les différentes manières de comprendre l'athéisme, hein, entre le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle. Hein, donc, on ne met pas nécessairement à chaque époque, hein, le même sens. Hein, on n'envisage pas la même réalité. Donc, voilà, il faut définir les termes, hein, les termes que l'on emploie, par rapport auxquels on veut se situer. C'est-à-dire lorsqu'on veut qualifier une réalité, bon, à partir d'un adjectif ou l'autre, ben encore faut-il qualifier, hein, ce que l'on veut expliquer là, quoi. Alors il y a une discussion, hein, par rapport à ce reproche d'athéisme adressé à Spinoza qu'il a toujours refusé, hein. Ça c'est clair.
Nous avons le temps pour une dernière, toute dernière question. Non. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents.